des sujets qui vous interpellent. Voici Jean-Luc Mongrain.
Quand on parle de contrôle, il faudrait parler de la capacité de certaines entreprises de s'auto-contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a un papa qui dénonce la présence de pornographie juvénile sur Instagram. Moi, je veux déborder de ce sujet-là parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ben oui, mais son enfant, il avait 9 ans, il n'y a pas d'affaires sur Instagram. » Le problème, c'est, à mon point de vue, s'empêcher de prendre un recul sur un sujet qui est un sujet social important. C'est-à-dire, nous baignons dans une culture très sexuée, avec des paramètres qui sont loin d'être éducatifs et réalistes. Le monde virtuel, on le sait, c'est pas le vrai monde. Alors, le monde de la pornographie, c'est un monde virtuel qui peut laisser penser à une clientèle non avisée que c'est ça la sexualité entre des êtres humains. C'est un peu particulier comme façon de faire. Et quand j'entends des entreprises richissimes, des géants du web, dire, on est là, oui, mais quand il y a des signalements, on le retire. Hey, ça fait des années qu'on criait qu'il y avait de la pollution sur les automobiles. On a mis des systèmes anti-pollution. Quand tu vas dans un McDonald's, n'importe où à travers le monde, c'est-tu drôle? Comment ça se fait que les couleurs de frites sont toujours les mêmes? Il y a une cloche au bout de 2 minutes et demie qui dit « bip, bip, bip », ils sont prêtes. Il y a une uniformité, il y a une façon de contrôler avant que le produit se ramasse sur le comptoir. N'est pas me dire qu'il n'y a pas un moyen de contrôler ces plateformes milliardaires qui sont en train de s'accaparer des clientèles qui n'ont pas la capacité de jugement nécessaire pour penser que ça peut être chose que d'être de l'arnaque, encore une fois, pour les rendre prisonniers un peu d'une façon de faire et d'une façon de vivre dans des choses foutrement importantes. Stéphanie Hull est avec nous, elle est sexologue pour enfants et adolescents. Est-ce que la sexualité est banalisée sur les réseaux sociaux et comment cette sexualité de nos jeunes pourra-t-elle les affecter? Bonjour, Stéphanie Hull.
Oui, bonjour, M. Mongrain.
Bonjour.
Tout d'abord, vraiment, là, j'ai vraiment adoré votre introduction.
Ah, bien, c'est gentil, merci beaucoup. Vous avez adoré ça, pourquoi? Parce qu'on banalise ou parce que des géants de l'entreprise ne sont pas capables de s'auto-réguler?
En fait, vous avez mis le doigt exactement sur le grand problème qui sort. Là, je suis très heureuse qu'on aborde le sujet. Ça fait des années que je travaille dans l'ombre, que j'accompagne les enfants, les adolescents, que je vois ce problème-là, qui est vraiment un problème de société en ce moment, qui est l'accessibilité à la sexualité explicite et à la pornographie. C'est vraiment écoutez, c'est rendu tellement, là, vous parlez de contrôle, même avec un contrôle parental, c'est super facile d'avoir accès à peu près n'importe quoi.
Bien sûr.
Donc, en ce moment, il n'y a pas de contrôle et c'est rendu un problème de santé publique, là. Ça devient urgent d'agir à ce niveau-là parce que les enfants, les adolescents et les jeunes adultes aussi, on va s'en venir à ces clientèles-là, mais les impacts de la pornographie, de l'exposition à la sexualité explicite, c'est vraiment, c'est ravageur, vraiment, là, sur le développement psychosexuel, sur les problématiques qui s'ensuivent, sur... C'est vraiment, et c'est de plus en plus, moi ça fait 22 ans que je suis sexologue avec les enfants et les adolescents, et dans les 10 dernières années, d'année en année, c'est de pire en pire, vraiment. Alors, c'est urgent qu'on en parle,
okay.
C'est urgent qu'on se mobilise comme ceci.
Alors, parlons-en, parce que tu sais, de dire c'est grave, c'est des impacts, ici, c'est des mots génériques, j'allais dire, pour lesquels on n'est pas capable de mettre des contenus, mais de... Réalistement, c'est quoi l'impact sur un jeune dans sa sexualité d'être exposé à de telles situations?
Bien, tout d'abord, je vais vous dire que ma zone d'intervention la plus grande est avec des enfants. Parce que, donc, on s'entend qu'au niveau du développement psychosexuel, l'enfant est dans un stade de sexualité qui n'a rien à voir avec la sexualité adulte ni adolescente. Donc, avant même d'être prêt à concevoir cette réalité-là. Oui, il y a des choses à apprendre et au niveau de la sexualité et tout ça, mais avec son petit cerveau, avec sa petite réalité d'enfant, ils sont confrontés à des images qu'ils sont incapables de gérer, qui les dépassent complètement et qui génèrent un traumatisme. Ça, c'est sûr. Là, les enfants qui vivent un traumatisme, qui sont en post-trauma, qu'on appelle, j'en ai beaucoup. Donc, sachez qu'ils sont envahis d'images. Le fait d'être envahi d'images dans son cerveau, c'est, je vais vous donner l'exemple, c'est comme voir un film d'horreur ou un meurtre en vidéo. OK? Mm-hmm. On le sait, l'impact, on va dire aux enfants, ben non, faut pas t'écouter des films d'horreur, ça va tuer. C'est un peu la même chose, l'impact. Donc, ils voient cette charge-là, ça amène une très, très grande charge émotive et ça apporte une émotion extrêmement forte.
On parle de quels enfants, là? Quel âge ils ont, là, ces enfants-là?
Ah, moi, j'en ai à partir de 5, 6, 7 ans, là. Tu sais, et ce qui est grave, déjà qui ont le traumatisme, c'est qu'ils vont développer une dépendance très rapidement. Parce que le cerveau, quand il voit ça, et le corps qui réagit, tout le système neurologique avec une émotion forte, c'est pas une émotion qui est agréable, mais c'est une émotion qui est très forte, bien, automatiquement, pour tenter de comprendre le traumatisme, puis pour retourner, tenter de s'apaiser, bien, l'enfant va souvent retourner voir. Donc, l'exposition se fait encore une autre fois, et là, il y a vraiment tout un... une réponse neurologique qui s'installe.
Okay. Mais
ensuite
là,
de ça, l'enfant, oui.
Avant de m'en aller dans la neurologie, là, comment un enfant de 5 ans peut peser sur un piton puis voir de la pornographie juvénile ou de la pornographie tout court? Comment?
Ben, c'est ça. Non, il ne voit pas de la pornographie juvénile à ce moment-là. La plupart du temps, il va voir de la pornographie avec des adultes.
Oui, donc, c'est ça. Mais là, comment... Eh, où la machine? Le piton, il est où? Comment ça se fait qu'il sait que c'est on?
Probablement, écoutez, ça arrive de toutes sortes de façons. J'ai des enfants qui vont chercher films d'amour, ils vont mettre trois petits becs à côté. J'ai des enfants qui vont chercher... c'est pour ça que je reviens à l'accessibilité avec des mots très, très de base, très simples. Ils vont faire une recherche sur quelque chose, ils s'en vont dans la vidéo et tout est là. C'est automatique, il y a plein de vidéos qui vont apparaître. Ça peut être aussi parce que l'ordinateur est aussi contaminé, donc il y a des pop-up. Des fois, moi, j'ai eu des enfants, juste par un pop-up, donc ça apparaît une pub parce qu'il y a quelqu'un, un adulte qui a consommé de la pornographie avec l'ordinateur, bien là, ça apparaît, puis juste de voir pendant quelques secondes quelque chose de très explicite, bien le choc se fait.
OK, je comprends. Je comprends comment, parce que j'essayais d'imaginer, parce que moi, quand j'ai eu mes enfants, on s'entend, il n'y avait pas de pop-up.
Non, c'est ça. Non. C'est ça. C'est puis on en revient encore au problème, sans tomber dans « on fait un procès à la pornographie », c'est l'importance de comprendre le problème d'accessibilité. Donc, mes jeunes consommateurs, garçons, commencent vers 9-10 ans à être exposés, à consommer, et ça se parle entre eux. Et comme ils pensent, ils ont la fausse croyance que c'est là, c'est accessible à eux. Fait qu'ils pensent que c'est là pour leur apprendre. Ils pensent que c'est là, ils sont curieux. Donc, au lieu d'aller chercher vers des bonnes sources, des bonnes références, poser leurs questions, tranquillement s'éduquer, l'éducation à la sexualité devrait commencer de toute façon dès qu'ils sont très, très jeunes, ils vont se retourner. Ils sont curieux. C'est normal. La curiosité est normale.
Ben oui, ça fait partie de l'apprentissage. La curiosité, c'est le moteur initial de l'apprentissage.
Et voilà. Donc, c'est là, c'est accessible. Ils pensent que c'est là pour ça. Ils pensent que c'est là pour leur apprendre et ils se mettent à regarder ça, ils en parlent entre eux, puis rapidement, ils développent la dépendance. Puis après, l'impact, c'est qu'ils ont des comportements sexuels inappropriés. Ils sont dans l'agir sexuel, dans leur verbalisation, dans leurs gestes, et ils reproduisent ça à un très jeune âge. Alors, on a de plus en plus de jeunes qui ont des comportements sexuels problématiques.
Dites-moi. Vous ne me voyez pas, là, mais j'étais un petit peu à terre.
Oui, je comprends.
Et l'adolescent, lui?
Oui.
Est-ce que sa dynamique est la même?
Ce qui est très, très triste en ce moment avec la sexualité de beaucoup d'adolescents, c'est qu'ils sont dans des dynamiques de violence sexuelle parce qu'ils ont développé... Et la dépendance continue. Hein. Puis si on fait le lien avec les réseaux sociaux et avec nos appareils, là, l'appareil que les jeunes, je vous parlais tantôt de neurologie, mais c'est parce que c'est super important pour bien comprendre comment ça fonctionne. Si le jeune consomme avec son téléphone, à chaque fois qu'il prend son téléphone dans ses mains, le cerveau, il se rappelle, lui, qu'il y a une récompense. C'est un peu la même chose si les jeunes vont dire on va sur Facebook, on veut voir combien qu'on a. On attend, le cerveau se met tout de suite en éveil. Donc, le cerveau va se mettre en éveil, il sait qu'il va aller chercher une émotion forte, regarder une image forte et la pulsion sexuelle va apparaître. Donc, c'est vraiment toute la boucle de réponse sexuelle devient aussi affectée. Puis, ce que ça fait souvent, c'est nos ados puis nos jeunes adultes quand ils veulent être dans une relation d'intimité, ils ont envie vraiment d'avoir de faire l'amour, on va dire, avec leur amoureux, leur amoureuse.
Selon ce qu'ils ont vu.
Non, parce qu'ils peuvent avoir aussi un désir, hein, où là, ça va être différent. Mais comme ils ont vu ça, le cerveau et la réponse sexuelle, c'est pas assez excitant pour lui, là, une personne en chair et en os. Puis là, en plus, t'as toute la gêne, la timidité, l'amour qui rentre là-dedans. Donc, le cerveau, il fait, hey, moi, là, ça m'intéresse pas, là. Moi, je veux mes images.
Oui, oui, je comprends.
Ils ont des dysfonctions sexuelles. Donc, il n'y aura pas d'érection. Ils vont avoir des problèmes.
Le temps file. J'ai, en une minute, croyez-vous que ce milieu de culture sexuelle déviante, ou en tout cas particulière, je ne fais pas le procès de la porno, moi non plus, là, mais que quand c'est consommé de cette façon-là, que ça peut faire en sorte qu'on est devant ce que l'on voit aujourd'hui, des dénonciations de jeunes gens pour agression sexuelle, etc., etc.
Mais tout à fait, c'est ce que ça fait ressortir, c'est depuis trop d'années, c'est la banalisation de la sexualité dans la société. Ça, c'est vraiment... C'est triste de dire, mais la pornographie, cette exposition-là à la sexualité explicite et banalisation, oui, ça, c'est la source. C'est une source du problème. C'est urgent d'agir, de faire de l'éducation à la sexualité. Et pas juste de dire, ben non, ça marche pas comme ça dans la vie. Ben non, on va pas regarder ça. C'est pas comme ça. On doit parler des impacts réels et parler c'est quoi les relations
sexuelles. Il faut dépasser le simple interdit pour dire que voici ça. Qu'est-ce que ça précipite dans les comportements des sociétés?
Voilà, et à faire l'éducation à la sexualité, c'est toujours, toujours remettre en perspective les messages de la société. Il faut continuer de le faire, et d'autant plus en ce moment. Donc, on dénonce et on nomme les comportements qui sont inacceptables. On les nomme concrètement. Et à l'inverse, après ça, on arrive avec l'éducation à la sexualité.
Parfait.
Et on
je comprends.
Explique.
Merci beaucoup, Stéphanie Houle, sexologue pour enfants et adolescents. Ce fut fort intéressant. On s'arrête pour une pause.